La science CQFD, Natacha Triou.
En France, toutes les 10 minutes, un enfant naît avant son terme, un bébé sur 10. La prématurité, qui n'est pas une pathologie classique, est un enjeu de santé publique. Quels sont les progrès en cours ? Chaque année en France, environ 50 000 femmes enceintes sont hospitalisées car elles risquent un accouchement prématuré. Les grands prématurés, avant 32 semaines d'aménorrhée, constituent à eux seuls 50% de la mortalité infantile. Un taux qui d'ailleurs augmente ces dernières années. Si nous avons progressé pour aider ces enfants nés trop tôt à survivre et à vivre avec le moins de séquelles possible, il reste insuffisamment étudié, l'ampleur et la gravité du phénomène sont encore sous-estimées. Prématurité, une recherche précoce. Jennifer Zetlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste périnatale et directrice de recherche à l'INSERM. Pierre-Yves Ancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste et directeur de l'équipe Épopée aux côtés de Jennifer Zetlin. Et Yann Cornillier, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine de l'INSERM avec comme grand angle pour ce numéro 60, prématurité, l'urgence d'agir. Et vous co-animerez à mes côtés cette émission, une émission donc en partenariat avec l'INSERM. Merci d'être avec nous en studio, d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure sur l'appli Radio France. Vous pouvez nous écouter tout en nous suivant sur X, ex-Twitter. Chaque jour, on vous poste plein de liens et de ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil @sciencecqfd. Alors, quels sont les risques pour ces enfants et pour les mères? Quels sont les progrès en matière de santé maternelle et néonatale? Comment améliorer les traitements et la prise en charge de ces naissances trop en avance? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour. En 1970, on s'inquiétait de voir un plus grand nombre d'enfants prématurés.
Voulez-vous maintenant, monsieur le professeur Robert Debré, que nous abordions un autre aspect de la grossesse? C'est la prématurité.
Oui, en effet. Quand nous avons fait le tableau des causes de malheur, c'est-à-dire de souffrance à la naissance et de malformations qui peuvent résulter de ces souffrances, puisque lorsque le nouveau-né souffre, tout de suite son cerveau souffre et par conséquent on court le risque qu'il garde une tare cérébrale, une tare mentale définitive, nous avons vu que la naissance avant terme était un élément grave, sérieux tout au moins, par le risque que cette naissance avant terme fait courir. Le nouveau-né prématuré est particulièrement sensible à toutes les agressions et à toutes les causes de maladie dans les jours qui suivent sa naissance. Donc, pour remonter aux vraies causes, il faut éviter la naissance avant terme le plus possible. Or, elle est relativement fréquente, cette naissance avant terme. On se demande même si elle n'a pas une certaine tendance à augmenter pour le moment. C'est un point à vérifier. Ce qui est certain, c'est qu'elle est relativement fréquente et que, après tout, nous ne disons pas une chose bien extraordinaire en disant que tous nos efforts doivent être dans cette direction, que l'enfant que porte sa mère ne quitte l'organisme maternel que lorsqu'il est arrivé à sa pleine maturité, à son terme, à 9 mois.
Le professeur Robert Debré dans l'émission Biologie et Médecine sur France Culture en 1970. Pierre-Yves Ancel, on l'entendait dire que la fréquence des naissances avant terme semblait augmenter. Plus de 50 ans plus tard, l'avenir lui a-t-il donné raison ?
En partie, oui. C'est-à-dire qu'on a constaté dans les 30 dernières années qu'il y a eu une tendance à l'augmentation de la prématurité, donc de ces naissances survenues un peu trop tôt, avant le 9e mois de la grossesse, comme c'était précisé. Et ce que l'on constate, en revanche, depuis quelques années, peut-être un petit peu moins de 10 ans, c'est plutôt une tendance à la stagnation de la prématurité, mais elle reste à des taux relativement élevés, puisqu'on estime à l'heure actuelle qu'il y a à peu près 7% des enfants qui naissent prématurément, donc avant le 9e mois de la grossesse, qui représente à peu près 50 000 enfants chaque année.
7%, vous dites, dans le monde, globalement ?
En France.
En France.
Après, il peut y avoir des variations dans le monde. On estime qu'en Europe, c'est entre quoi 5 et 7% à peu près, Jennifer. Et puis, et peut-être un peu plus élevé en Amérique du Nord.
Jennifer Zetlin.
Ben justement, on travaille avec des pays en Europe pour quantifier l'incidence, la prématurité. Et effectivement, ça varie entre 5% et 8% en Europe. Et aux États-Unis, qui maintenant effectivement un taux en augmentation. Ils sont à 10,5. Mais ce qui est intéressant dans cette émission, c'est le fait que nous avons fait peu de progrès en termes de prévention. On parle de l'importance de prévenir la prématurité. Et finalement, depuis cette émission, il y a longtemps, les avancées ont été sur la prise en charge de la prématurité, du prématuré et son pronostic, mais pas sur la prévention de la prématurité.
Yann Cornelier, une réaction, vous aussi, à cet archive.
Oui, tout à fait. Il précise bien, d'ailleurs, ce qui est important, c'est de prendre en charge le bébé juste dans les jours qui suivent la naissance, alors qu'il ne parle pas du tout de prendre en charge la grossesse juste avant la naissance, et puis non plus de prendre en charge l'enfant sur plusieurs années, puisque les conséquences de la prématurité, elles vont bien au-delà des quelques jours qui suivent la naissance, elles s'écoulent jusqu'à l'âge adulte.
Alors on parle de prématurité comme ça, de ces enfants qui sont nés donc 9 mois, en avance, avant les 9 mois. Mais Pierre-Yves Vancel, il y a différents stades, il y a 3 niveaux de prématurité différents.
Oui, au moins. C'est-à-dire que parmi ces enfants prématurés, alors vous savez que la durée de la grossesse, on la mesure en semaines d'aménorrhée, hein, c'est un peu par convention. Et même s'il y a eu les progrès de l'échographie pour mesurer cette durée de la grossesse, il peut y avoir une imprécision autour de la mesure, premier élément. Le deuxième élément, c'est que parmi les enfants nés prématurés, on va distinguer différents degrés de sévérité. Il y a les formes les plus sévères, entre guillemets, les enfants extrêmement prématurés. Ils sont nés, ceux-là, entre 22 et 26, 27 semaines d'aménorrhée. Puis ensuite, on a la grande prématurité, entre 27, 28 et 31 semaines. La prématurité modérée, entre 32 et 33 semaines. Et enfin, ce qui est un peu paradoxal, la prématurité dite tardive, entre 34, 35 et 36 semaines. Voilà, donc ça permet... Alors, bien entendu, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ceci est un continuum. Il n'y a pas une semaine d'âge gestationnel où tout bascule d'un seul coup, c'est un continuum, mais si on découpe comme ça la prématurité, c'est parce qu'on identifie bien des groupes dont le niveau de risque, soit immédiatement après la naissance, soit plus tard, est pas le même.
Jennifer Zetlin, c'est 85% des naissances prématurées qui surviennent entre 32 et 37 semaines d'aménorrhée, c'est ça?
Entre 32, sur les 7%, il y a à peu près 1%, 1,3% qui surviennent avant 32 semaines. Et les autres sont entre 32 et 36, mais c'est grand préma, au-dessous de 32 semaines, c'est ce qui est le plus à risque, comme vous avez dit, constitue à peu près 60% de tous les morts néonatales, c'est-à-dire les décès au cours du premier mois. Donc il y a des niveaux de sévérité très très différents entre être né prématurément à 28 semaines et né prématurément à 36 semaines. C'est pas du tout le même pronostic que...
Oui, puis les besoins ne seront pas les mêmes, Yann Cornillet.
Oui, les besoins, mais aussi les conséquences de la prématurité, effectivement, ne sont pas du tout les mêmes sur le développement de l'enfant, en particulier le développement du cerveau.
Alors ça, sur les causes et les causes, justement, les conséquences, on y reviendra dans quelques instants, mais toujours pour continuer ce panorama de la prématurité, on peut aussi parler du seuil de viabilité d'un fœtus. C'est un seuil qui a évolué, Pierre-Yves Vancel.
Déjà, la notion de viabilité est une notion un peu compliquée à définir, puisqu'on parle de viabilité quand des conditions, on va dire, anatomiques et physiologiques sont rencontrées, une maturité suffisante pour que l'enfant puisse survivre, à condition qu'on lui donne les moyens de survivre. C'est qu'il faut qu'il ait les moyens de prise en charge en néonatologie, notamment pour que ses enfants survivent. Alors, habituellement, on considère que la viabilité se situe probablement entre 21, 22, 23, 24 semaines, à peu près. Mais il n'y a pas simplement l'âge gestationnel qui va jouer, rentrer en ligne de compte dans cette notion de viabilité. Il y a aussi le poids de l'enfant à naître. Plus il est petit, plus le risque de survie diminue. Il va y avoir éventuellement le contexte pathologique autour de la naissance, le fait que ce soit une petite fille ou un petit garçon, le fait qu'il ait reçu les traitements bénéfiques. Tout ceci va bien entendu jouer dans son pronostic et il faut en tenir compte.
Jennifer Zetlin.
Il y a aussi une notion plutôt statistique, voilà. C'est-à-dire en France, c'est-à-dire la viabilité, enfin, commence à enregistrer les naissances à partir de 22 semaines ou 500 grammes. C'est à ce moment-là où les enfants sont déclarés à l'état civil ou qui rentrent dans les statistiques. Avant cet âge gestationnel-là, ils ne sont pas comptabilisés comme des naissances, c'est plutôt des fausses couches ou des interruptions de grossesse. Donc, et c'est vrai pour des morts-nés aussi, et ça, c'est des seuils qui ont évolué dans le temps et qui existent quand même en Europe, surtout pour les enfants qui sont nés sans vie, des différences entre les pays sur ces seuils statistiques d'enregistrement de naissance.
Yann Cornillet.
Oui, justement, pour appuyer encore ce fait, c'est qu'en fait, en France, on ne dispose pas de registre de naissance véritablement, comme par rapport à d'autres pays d'Europe qui eux en ont. Et donc ces données nous manquent en fait depuis des années et même des décennies. Et c'est pour ça qu'en fait finalement on a encore une vision un peu parcellaire de la prématurité en France.
Et comme vous dites, ce seuil a évolué dans le temps. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1980, la médecine estimait que le seuil de viabilité était de 28 semaines. Jennifer.
Oui, quand j'ai commencé à travailler en France, c'était comme ça. Je faisais une enquête sur la mortalité périnatale en Seine-Saint-Denis au début des années 90. Et notre critère d'inclusion, c'était des enfants à partir de 28 semaines. Et ça a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui en France, les enfants qui naissent à 28 semaines, il y a 90% qui survivent. Donc il y a eu des changements énormes au cours des 30 dernières années.
Alors, le nombre de prématurés, comme vous l'avez dit, Pierre-Yves Roncel, stagne. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a publié en mai 2023 le rapport « Naître trop tôt, une décennie d'action contre les naissances prématurées ». Et les auteurs tirent le signal d'alarme sur cette urgence silencieuse en disant « Le taux de bébés nés prématurément n'a pas baissé ». Comment ça s'explique, ça?
C'est une question compliquée. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que la prématurité, c'est une entité complexe. Elle est complexe parce qu'elle est d'origine multifactorielle. Multifactorielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de pathologies différentes qui peuvent conduire à un accouchement prématuré et en amont, plein de facteurs de risque. Alors, schématiquement, on voit bien qu'il y a quatre grandes familles de pathologies qui vont induire l'accouchement prématuré, être à l'origine de l'accouchement prématuré. C'est ce qu'on appelle la rupture prématurée des membranes, une poche des os qui seront avant le terme normal de la grossesse, ou alors des mamans qui se mettent en travail spontanément. Derrière, souvent, il peut y avoir de la pathologie infectieuse ou inflammatoire à l'origine de ça. Et puis, on a un troisième grand type de complications qui sont les désordres hypertensifs de la grossesse. Donc, des femmes qui font de l'hypertension pendant la grossesse, qui peuvent avoir des complications et conduire à cet accouchement prématuré. Et si ça n'a pas diminué, je crois qu'il faut retenir aussi quelque chose d'important dans la prématurité, c'est que la moitié des naissances d'enfants prématurés sont en fait provoquées par les équipes médicales. Ce qu'on appelle la prématurité induite, elle est provoquée par les équipes médicales pour sauver le bébé ou sauver la maman, parce qu'il y a une complication. Donc vous voyez qu'on est un peu loin de prévenir l'accouchement prématuré, parce qu'il y en a une partie qu'on provoque, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu vital, à la fois pour la maman ou pour le bébé.
Jennifer Zeldin, quelles sont justement ces raisons pour lesquelles on doit enclencher un accouchement avant son terme?
Pierre-Yves, une des raisons principales, c'est les problèmes hypertensifs qui peuvent conduire à un bébé qui ne grandit plus, ce qu'on appelle le retard de croissance intra-utérin. Et dans ce cas-là, en fait, rester in utero, va entraîner éventuellement des problèmes de morbidité ou de mortalité.
Oui, c'est ça, c'est que la santé de la mère passe avant celle de l'enfant.
Oui, par rapport à cette problématique des pathologies hypertensives de la grossesse, il y en a une partie qu'on appelle l'hypertension gravidique ou la prééclampsie, qui est une maladie spécifique de la grossesse, qui est liée en fait à une mauvaise implantation, enfin une mauvaise placentation, et notamment un problème dans la vascularisation du placenta. Donc il y a toute une phase qui est préclinique autour de la première moitié de la grossesse, et une deuxième phase où il va y avoir deux types de symptômes possibles. Une symptomatologie pour le bébé, parce que lui n'est pas bien, entre guillemets, ne reçoit pas les nutriments ni l'oxygène qu'il faut pour grandir, et donc il y a un risque de retard de croissance. Et puis des conséquences maternelles, puisque le placenta souffrant, il va libérer un certain nombre de substances qui vont s'attaquer au vaisseau de la maman, avec des manifestations qui peuvent être hépatiques, qui peuvent être rénales et qui peuvent être cérébrales et conduire, le cas échéant, à l'éclampsie qu'on connaît, donc avec des manifestations à type d'épilepsie.
Jennifer Zeldin.
Moi, je voulais juste évoquer un facteur de risque majeur pour la prématurité, qui est la grossesse multiple.
Oui,
en fait, les jumeaux, les triplés, ont des risques beaucoup, beaucoup plus importants d'accouchement prématuré. Et en fait, des jumeaux, il y a un jumeau sur deux il y a une grossesse multiple sur deux qui naissent prématurément. Et la grande prématurité, moins de 32 semaines, il y a 10% des jumeaux qui naissent très prématurément. Et donc ça c'est un levier d'action parce que on peut au moins à travers tout ce qui est aide à la procréation médicale, on peut gérer le nombre d'embryons qui sont implantés pour diminuer le taux de grossesse gémellaire. Et c'est ça qui se passe finalement en France et dans le monde. Et c'est un facteur. Il y a 25% des enfants prématurés sont des jumeaux. 1 sur 4.
Par ailleurs, on a aussi observé une fréquence plus importante de naissances prématurées chez la jeune femme ou chez la femme plus âgée, Yann Cornillier.
Oui, tout à fait. Alors évidemment, la population augmente en âge, aussi le retard, enfin on va dire l'âge de la grossesse s'est un peu reculé aussi avec les décennies, donc c'est ce qui peut expliquer aussi cette stagnation finalement de la prématurité. Alors évidemment, il y a des complications qui sont liées à l'âge, mais aussi au surpoids aussi, tout à fait. Et effectivement, on observe aussi dans la société quand même un surpoids qui a tendance à progresser. Mais c'est pas les seuls. Il y a aussi les addictions comme le tabac, l'alcool, donc toutes les règles hygiéno-diététiques. Et puis enfin, il y a la pollution, les conditions environnementales, les particules fines, le dioxyde d'azote ont un impact déjà sur l'organisme en temps normal, mais encore plus sur la grossesse et l'enfant. Et même les conditions climatiques, il faut le dire, parce qu'il y a aussi des recherches qui ont montré que les températures extrêmes, les épisodes de température extrême ou de température extrêmement basse peuvent avoir un effet sur le risque de prématurité.
Ça reste à méditer dans ce contexte actuel de crise climatique. Pierre-Yves Ancel, justement sur l'impact environnemental sur la prématurité.
Non, je rejoins un peu ce qui a été dit. D'abord, sur l'augmentation de la prématurité, elle s'est en partie expliquée, comme vous l'avez très bien dit, par l'élévation progressive de l'âge à la maternité. Au départ, par la diffusion des traitements de l'infertilité qui conduisait justement à beaucoup de grossesses multiples, et puis par ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'augmentation de la prématurité induite, c'est-à-dire provoquée par les équipes médicales pour sauver le bébé ou la maman. Donc ça a été une première phase, et puis depuis quelques années, ça stagne pour les raisons que tu as expliquées, Jennifer, avec probablement un meilleur contrôle de la réimplantation des embryons. Ce qui est très intéressant sur les aspects environnementaux, c'est que probablement il y a un rôle croissant justement de la pollution, des périodes de chaleur ou de froid. On voit bien que pour prévenir tout ça, c'est compliqué. Et c'est bien pour ça que finalement, la prévention autour de la prématurité, elle se porte plutôt après la naissance, pour essayer de préserver et d'accompagner le bébé qui est né, plutôt que prévenir cette prématurité dont l'origine est tellement multiple que c'est compliqué.
Un autre facteur dont on doit absolument parler, hein, c'est les disparités et les inégalités économiques, Jennifer Zentlin, parce que dans beaucoup de pays à bas revenus, l'incidence de la prématurité est plus élevée, la prise en charge y est moins bien développée, mais même dans des pays à revenus élevés, comme en France, on voit un écart inacceptable en fonction des origines et des revenus de la mère.
Oui, c'est sûr que la prématurité est une certaine sorte une maladie de la pauvreté. Et on voit que des taux plus élevés chez des femmes socialement défavorisées. Et c'est aussi une des explications pour des différences entre les pays. Et il y a certaines mesures de prévention, c'est-à-dire il y a des taux de prématurité sont plus élevés en lien avec une stress de la vie. C'est plus élevé chez des femmes très jeunes et jeunes. Et c'est probablement une des raisons que, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, il y a des taux de prématurité un peu plus élevés.
Le grand moment, ça sera...
On est en train de nous faire hacker notre direct. Excusez-nous, Jennifer Zetlin. Oui, vous pouvez continuer, bien sûr.
Non, je disais que en France, on a plus vraiment de naissances chez des femmes très jeunes, et ça nous aide à avoir un taux de prématurité qui est vraiment dans la moyenne et pas un taux de prématurité trop élevé. Et c'est sûr quand même. En France, il y a des différences importantes par rapport au niveau d'études, par rapport au lieu d'habitation. Dans des quartiers plus favorisés ou moins favorisés.
Alors, quels sont les éventuels effets sur la santé des enfants qui peuvent persister à l'âge adulte ? Reste à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, nous parlons de prématurité avec Jennifer Zetlin et Pierre-Yves Ancel. Une émission en partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillier. On vient de voir comment le nombre de prématurés avait évolué au cours du temps, que le seuil de viabilité d'un fœtus recule d'une semaine à peu près tous les 10 ans. Yann Cornillier, on estime qu'avant l'âge de 5 ans, une mort sur 5 est associée à une naissance prématurée.
Oui.
Ça, c'est par rapport justement aux chances de survie selon les stades de prématurité.
Alors oui, effectivement, les prématurés qui sont considérés comme extrêmement prématurés, effectivement, c'est les plus sensibles. Donc ce sont ceux-là qui vont avoir le plus de problèmes physiologiques au niveau de leur santé. Il va y avoir c'est surtout au niveau cérébral qu'ils vont avoir des problèmes. Mais sur tous les prématurés, il y a aussi plein d'autres problèmes, ceux qui ont un moindre degré, au niveau de la cognition notamment. Donc on peut retrouver jusqu'à 5 ans, jusqu'à l'âge scolaire, des troubles de l'attention, des troubles cognitifs, etc.
Pierre-Yves Vancel, en effet, les complications les plus graves, ça concerne principalement le cerveau.
Oui, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui, compte tenu de leur immaturité, vont avoir une fragilité cérébrale. On sait que, par exemple, mais pas seulement... C'est-à-dire qu'elle est à la fois cérébrale, elle est respiratoire, elle peut être aussi toucher les yeux, voire toucher l'intestin avec ce qu'on appelle l'entérocolite ulcéronécrosante. Ce qui est important, c'est que dans cette population d'enfants prématurés, qu'est-ce que l'on constate? Il y a à peu près, 10% des enfants extrêmement prématurés, donc vous savez, ceux qui sont nés entre 22 et 26 semaines, qui vont faire au moins deux complications sévères au cours de la période néonatale, c'est-à-dire cérébrale, respiratoire ou alors digestive, contre 1% des enfants avec grands prématurés, donc 27-31 semaines, et 0,1% des enfants avec une prématurité modérée. Donc on voit bien le gradient extrêmement important dans la fragilité au cours du premier mois de cette population d'enfants. Et c'est évidemment quelque chose qui conditionne au moins en partie le pronostic ultérieur.
Jennifer Zetlin, sur la fragilité justement de ces grands prématurés et sur les raisons pour lesquelles ces enfants sont vulnérables.
Je voudrais apporter un petit note d'optimisme quand même, parce que quand nous faisons on a fait une étude de cohorte avec des familles de ces enfants, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, il faut les surveiller, il faut les suivre, mais globalement, c'est des enfants dont les parents pensent qu'ils sont en bonne santé. Je dis ça pour les lecteurs qui les écoutent, le public qui a peut-être des amis qui ont des enfants prématurés. C'est une population à risque, mais pour beaucoup d'enfants, ça se passe très bien. Et c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est l'hétérogénéité des conséquences. Et le fait que quand l'enfant rentre chez lui, quand il sort de l'hôpital, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et c'est ça toute la complexité de comprendre les conséquences à long terme de la prématurité, c'est qu'il faut suivre ces enfants pour voir à 5 ans quelle est la cognition, quelle est l'intégration scolaire, quels sont les problèmes comportementaux, quels sont les problèmes moteurs. À la sortie de l'hôpital, c'est un nourrisson. Et même s'il y a des facteurs de risque, comme dit Pierre-Yves, en termes d'atteinte cérébrale ou des problèmes pulmonaires, des enfants qui ont ces morbidités-là, il y en a beaucoup qui vont développer normalement. Donc, c'est une situation, c'est un enjeu, c'est compliqué de savoir exactement quelles vont être les conséquences.
Mais pour suivre justement cette évolution, vous avez tous les deux mené deux études épidémiologiques d'envergure, les cohortes EpiPage 1 et 2. Pierre-Yves Vancel, vous avez créé la cohorte EpiPage 2, c'est une étude épidémiologique sur les petits âges gestationnels. Les résultats obtenus par votre équipe INSERM épopée vous ont d'ailleurs valu le Grand Prix de la Recherche et de la Fondation de France en juin 2019. EpiPage 1, ça a été réalisé donc sur des prématurés qui sont nés en 1997, que vous avez suivis de la naissance jusqu'à l'âge de 8 ans. Qu'a montré cette première étude?
D'abord, je ne l'ai pas menée tout seul.
Oui, oui.
C'est un travail d'équipe, je tiens à le rappeler, parce que je pense notamment à Monique Kaminski, Gérard Bréard, Béatrice Larocque, qui ont été très impliqués dans ce travail-là. Elle a montré d'abord que dans les années 90, il y avait déjà une amélioration de la survie des enfants grands prématurés, mais qu'effectivement, à l'âge de 5 ans, 8 ans, il restait encore des difficultés importantes, notamment sur le plan neurodéveloppemental. Et ce qui a conduit finalement à la mise en place de l'étude EpiPage 2, c'est qu'on s'est dit, entre 1997 et 2011, il y a un certain nombre de pratiques médicales dans l'organisation des soins qui ont aussi évolué. Donc on s'est posé la question de savoir si ça avait continué à s'améliorer.
Yann Cornillier. Sur ce suivi avec EpiPage 2, justement, est-ce que le diagnostic, le pronostic s'est amélioré? Ou sinon, Jennifer Zetlin, sur cette question. Ou Pierre-Yves Ancel.
Voilà. Et puis après, on complétera par d'autres volets. Mais en tout cas, ce qu'on a constaté entre la première cohorte de 1997 et Pipage 2 en 2011, c'est qu'on avait observé une amélioration d'abord de la survie des enfants grands prématurés, d'une part. Et deuxièmement, un élément quand même très positif, c'est qu'on a constaté que chez les enfants qui survivaient, il y avait moins de troubles moteurs graves. Donc au total, en l'espace d'une quinzaine d'années, on a observé une amélioration de la survie sans handicap moteur grave, ce qui était un élément quand même extrêmement positif. Et comme le dit Jennifer, il ne faut pas perdre de vue que la plupart de ces enfants survivent et que parmi les survivants, il y en a beaucoup, beaucoup qui ne présentent pas de troubles non plus. Ce qui est nécessaire en revanche, c'est d'accompagner ces familles parce que la population de ces enfants reste quand même importante à suivre.
Jennifer Zetlin.
Par contre, un mot un peu moins optimiste, il y a des recherches actuellement, par exemple, une des conséquences peut-être la plus inquiétante de la grande prématurité, c'est les problèmes cognitifs et la baisse du QI. Et en fait, le quotient intellectuel est à peu près de 12 points en moyenne plus bas chez les enfants nés prématurément. Et ça... ça n'a pas beaucoup évolué au cours du temps. Et même si on peut prévenir ces grands troubles moteurs, on a fait moins de progrès pour prévenir des aspects, des atteintes cognitives de ces enfants. Donc ça, c'est le grand champ devant nous pour les années à venir. C'est comment améliorer ces aspects cognitifs.
Yann Cornet.
Oui, et peut-être qu'on peut préciser aussi, encore toujours un petit peu négatif, c'est que sur au-delà des 5 années, le suivi et la prise en charge de ces enfants, il est pas encore complètement efficace. Enfin, donc beaucoup sont encore sortis de la prise en charge après 5 ans. Et donc c'est un peu le problème de pouvoir suivre tous les effets délétères de la prématurité sur eux.
Pierre-Yves Ancel, justement sur cette question.
Oui, ce qu'on a constaté, notamment dans le cadre des Pipage 2, on a organisé un bilan complet de l'état de santé et du développement de ces enfants à l'âge de 5 ans et demi. Donc ils ont été vus par un médecin, ils ont été vus par un ou une psychologue. Et donc on a fait une batterie de tests qui permettent d'évaluer le développement moteur, le développement sensoriel, le développement cognitif, comme tu l'évoquais. Et donc là encore, il y a une grande hétérogénéité en fonction de l'âge gestationnel à la naissance. Chez des enfants extrêmement prématurés, on va dire qu'il y avait presque 30% des enfants qui avaient des difficultés neurodéveloppementales modérées à sévères, contre, on dirait, 20% des enfants grands prématurés. On était plutôt à 10% des enfants avec une prématurité modérée, contre 5% des enfants nés à terme. Donc on voit bien le gradient. Et donc on voit bien le besoin de prise en charge de ces enfants. Et ce qui nous avait un peu plus préoccupé, ça revient à ce que vous disiez aussi, c'est que parmi ces enfants qui avaient des difficultés, on va dire, modérées à sévères, eh bien il y en a une bonne partie, entre 25, 30 et 50%, qui n'avaient aucune prise en charge spécialisée à l'âge de 5 ans et demi. Donc on voit bien que la nécessité de suivre et d'accompagner ces familles, c'est une condition sine qua non pour que les choses s'améliorent. Et donc ça, c'est un élément important.
Ouais, et on en revient à la question des inégalités, et en particulier en termes d'accès aux soins. C'est-à-dire que les personnes en précarité sont vraiment la double peine pour eux, parce que non seulement l'enfant est prématuré, mais en plus, ils ont énormément de difficultés d'avoir accès aux soins, évidemment, et en particulier d'avoir accès à des psychomotriciens, des pédopsychiatres, des gens spécialisés dans le suivi des enfants prématurés.
Allez-y.
Nous, dans le cadre, au moment de l'étude d'épipage, on a mis en place une cohorte européenne avec des enfants nés prématurément. Et dans le questionnaire aux parents qu'on avait fait passer à 5 ans, on leur a demandé leurs appréciations des soins reçus par leur enfant pour la prématurité. Et la plupart des parents parlaient des problèmes de coordination de soins. Parce qu'ils ont souvent beaucoup de petits problèmes. La prématurité est un peu méconnue des médecins généralistes, les parcours de soins ne sont pas très bien définis. Et donc, c'est un poids lourd qui peut faire que même des enfants avec des problèmes ne soient pas suivi ou pris en charge convenablement.
Oui, vous faites allusion à la cohorte Européristat. On reviendra dans quelques instants justement sur ces questions de l'importance de la coordination, de l'importance de la coordination des soins. Un petit point quand même sur pourquoi on voit qu'on a progressé, qu'il y a des risques encore, mais qu'on a progressé sur la survie. Pierre-Yves Ancel, justement, quels ont été les progrès qui nous ont permis de faire progresser cette survie chez les prématurés? Les grands prématurés.
Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent. Le premier élément, c'est que on considère que pour améliorer la survie des enfants, il faut qu'ils naissent au bon endroit. Et le bon endroit, quand ils sont très prématurés, c'est dans une maternité dite de type 3, c'est-à-dire une maternité qui est équipée d'un service de réanimation néonatale juste à côté, ce qui se comprend bien, parce que si l'enfant naît très prématurément, c'est bien qu'il y ait le plateau technique juste à côté. Deuxièmement, c'est qu'il ait reçu les traitements qui sont considérés comme efficaces. Et donc, il y a un des traitements qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle la corticothérapie anténatale, c'est-à-dire on donne des corticoïdes à la maman juste avant l'accouchement, et ça va aider le, ça va préparer le bébé finalement à la naissance. Il va pouvoir mieux s'adapter à la vie extra-utérine. Et puis, une fois qu'il est né, comme je l'ai dit, il faut qu'il ait des traitements qui sont efficaces comme le surfactant, qui vient pallier, je dirais, le déficit de synthèse en interne. Ça va l'aider à respirer. Et il y a un ensemble de prises en charge comme ça qui sont mises en œuvre et qui ont probablement progressivement de plus en plus diffusées et qui expliquent cette amélioration de la survie chez les plus immatures.
Il y a aussi, parmi ces progrès, Yann Cornillier, il y a aussi l'intervention de ce qu'on appelle les surfactants artificiels qui remplacent une substance que les grands prématurés ne produisent pas encore dans leurs poumons et qui les aident
à
respirer.
Oui, Pierre Hansel, ouais. Effectivement, ces surfactants vont aider à développer les poumons. Et donc, comme c'est un des principaux problèmes, hein, l'immaturité des poumons chez les prématurés, ça va leur permettre de respirer un peu mieux.
Oui, ça, avec les progrès des appareils respiratoires. Alors, comment s'organise la prise en charge des prématurés? Comment améliorer cette prise en charge? Et quelles sont les recherches en cours? Reste avec nous, on y vient. Direct sur France Culture, Newborn Soul de Staple Singers. Car nous parlons de ces enfants prématurés et nous en parlons en compagnie de nos deux invités du jour, Jennifer Zetlin, épidémiologiste périnatale et directrice de recherche à l'INSERM, Pierre-Yves Hansel, épidémiologiste et directeur de l'équipe Épopée aux côtés de Jennifer Zetlin, et Yann Cornillier, responsable des publications multimédia INSERM, qui coanime avec moi cette émission. Nous venons de parler des risques encourus pour ces enfants qui naissent avant l'heure, que les handicaps sévères comme la paralysie cérébrale, la surdité ou encore la cécité sont beaucoup moins courants qu'auparavant. La prématurité existe sous différentes formes de gravité et nécessite en maternité des soins adaptés pour la survie et la bonne croissance des nourrissons. On continue d'en parler avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allée pour le reportage du jour à la maternité de Port-Royal de la PHP de Paris, qui possède un service de médecine et réanimation néonatale et qui est équipé pour accueillir différents profils de bébés prématurés.
Oui, ce service dirigé par le docteur Pierre-Henri Géraud est adjoint à la maternité Port-Royal qui assure chaque année plus de 5000 naissances dans un environnement chirurgical de très haut niveau. Le service comporte 63 couveuses sur différentes sections en fonction des soins, de la grande à l'extrême prématurité. Et si les innovations technologique améliore considérablement la prise en charge, la qualité des soins réside surtout dans une organisation performante et fluide entre l'équipe médicale et les parents, dont le rôle est vraiment replacé au cœur du processus thérapeutique.
La La grande prématurité, c'est un cinquième des admissions. Il y a aussi les prématurés moins, qui sont souvent moins graves sur le plan de la maladie. Mais enfin, ils ont besoin d'être hospitalisés parce qu'ils sont prématurés, donc ils ne sont pas autonomes.
Ces appareils, ce sont des couveuses qui ont...
Ces appareils, ça, c'est des incubateurs qu'on appelle ouverts. Est-ce que vous avez des masques avec l'élastique? Là, vous êtes dans la partie moins aiguë. C'est pas la partie réanimation qui est au premier étage. Donc habituellement, ici, ce sont des enfants qui ne nécessitent pas de réanimation, qui n'en nécessitent plus, qui sont donc soit des enfants des prématurités modérées à tardives qu'on peut mettre hospitalisés directement ici, soit des enfants qui sont d'anciens grands prématurés, qui se sont débarrassés de les machines qui les aident à respirer et qu'on peut descendre ici. Voilà, donc ça c'est une chambre par exemple.
Quels sont les équipements justement pour maintenir en bon état de santé ces nourrissons? Alors, au niveau de la température, de la nutrition?
Il faut des incubateurs. Donc les incubateurs, il y a ce qu'on appelle les lits radiants comme ici, c'est-à-dire que la chaleur vient de là-haut. Ça c'est pour des enfants plus avancés en âge et plus gros. Voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle des incubateurs fermés. C'est ce que vous avez ici. Donc la chaleur est autour du bébé là et il est humidifié. Voilà. Donc ça c'est fondamental parce que les bébés prématurés, et a fortiori les extrêmes prématurés, ont une peau extrêmement fine, donc ils perdent de la chaleur très très vite. Ils perdent de l'eau très très vite. Voilà. Ce que vous voyez là-bas, hein. Vous voyez, 124,95, c'est pour le monitorage de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène, de la fréquence respiratoire, etc. Donc ça, c'est le secteur moins aigu du service. Hein. Donc là, les parents peuvent rentrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il faut dire aussi qu'ici, on a développé des dispositifs pour que les parents puissent être en lien permanent avec l'enfant.
Oui.
Avec un accueil,
oui. Alors maintenant,
et des lieux de vie aménagés.
Oui, alors il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on est très attaché à l'utilisation, notamment sur les grands et les extrêmes prématurés, ce qu'on appelle les soins de confort et de développement. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de progrès dans les 30 dernières années sur la prise en charge respiratoire, nutritionnelle, etc. des enfants. Après, c'est des enfants, ils ne sont pas, quand ils sont nés à 6 mois de grossesse, voire moins, ils ne sont pas prêts à être exposés à la lumière, à être exposés au bruit. Donc il faut être très attentif au fait d'essayer de respecter leur immaturité cérébrale sur ce plan-là, et leur rythme aussi d'ailleurs. D'essayer d'adapter les soins au moment où ils sont en train de s'éveiller, etc. Qui demande à une surveillance et une observation attentive avec des infirmières bien formées. L'essentiel de l'activité du travail, il est fait par les infirmières. C'est elles qui font la qualité du travail. Hein. Voilà.
Disons que ça, j'imagine un travail d'équipe pluridisciplinaire.
C'est un travail complètement
pluridisciplinaire. Les pédiatres et même les psychologues.
Il y a des pédiatres, on a des psychologues, on a des kinésithérapeutes, on a des orthophonistes. Tout ça fait partie d'un travail multidisciplinaire, c'est clair. Voilà. Donc où les parents peuvent venir quand ils restent toute la journée. On est très attaché au fait que les parents soient présents le plus longtemps possible auprès de leur enfant. Hein. Et même on a mis pour les grands, pour les prématurés à la naissance, donc ils sortent, ils viennent de naître, ils sont amenés ici, donc on les amène soit dans des couveuses fermées, sur un chariot, hein, avec une machine qui est une ventile. Et ce qu'on essaie de développer maintenant, c'est le pot à pot dès la naissance avec le père, parce que la mère, donc on a un fauteuil adapté pour que le bébé puisse être amené en réanimation avec le contre son père. Là, on est dans la partie de réanimation. Réanimation et soins intensifs lourds, en fait, soins intensifs. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle du transfert in utero, c'est-à-dire, ce qui est un très, terme très laid, c'est-à-dire quand une femme est à risque d'accoucher très prématurément et que sa maternité n'a pas de réanimation, n'est pas adaptée pour la prise en charge d'un grand prématuré, à ce moment-là, il les envoie ici à la maternité. L'idéal, c'est que les enfants naissent dans une maternité à proximité de la réanimation sans avoir à les transporter. Donc les parents, ils arrivent, je vais vous montrer, je vais vous faire le circuit des parents. Voilà, donc les parents arrivent là.
Donc chacun a son casier.
Chaque enfant a son casier, donc les parents peuvent laisser leurs affaires ici. Et ils vont rejoindre leur enfant. Donc les bébés sont là, voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est de la réanimation lourde. Donc il y a une machine, il y a un gros scope, on mesure plein de choses, il y a des couveuses spéciales pour les tout petits. C'est quoi les progrès qui ont été faits depuis 30 ans? Il y a eu des progrès énormes sur le plan respiratoire, notamment par l'utilisation. Les bébés très prématurés, ils naissent avec un déficit dans les poumons d'un produit qui s'appelle le surfactant. Le surfactant, c'est un produit qu'on a tous dans nos poumons, qui nous permet de maintenir nos poumons ouverts en fin d'expiration. Les bébés prématurés n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin au moment où ils naissent, normalement. Sauf que là, ils vont en avoir besoin. Donc, il y a eu plusieurs progrès qui ont été faits de ce point de vue-là. D'une part, il y a l'administration de corticoïdes en anténatale à la mère, ce qui permet de faire maturer les poumons. Donc, il y a moins de maladies par déficit en surfactant, ce qu'on appelle la maladie des membranes. Deuxièmement, si ça n'a pas été suffisant, ou si on n'a pas eu le temps, parce que ça arrive parfois trop brutalement, on peut donner du surfactant directement dans les poumons, dans la trachée en fait. Donc ça a été deux progrès considérables. Les machines de ventilation sont beaucoup plus perfectionnées qu'avant, et donc elles sont beaucoup moins traumatiques pour les poumons de ces enfants. Et il y a eu des clairs progrès dans l'amélioration de la nutrition de ces enfants, qui est indispensable pour qu'ils puissent se grandir. Et puis, après la naissance, mais aussi en termes d'évaluation neurologique. Et des échographies cérébrales, il y a le recours à l'IRM pour savoir un petit peu s'il y a eu des dégâts et s'il y en a eu, de quel ordre ils sont.
Merci Céline Lozen pour votre reportage. Pierre-Yves Ancel, une réaction à ce qu'on vient d'écouter?
Oui, je tenais à insister sur le fait qu'effectivement, comme l'a très bien dit Pierre-Henri Jarreau, il y a un certain nombre de traitements, de prises en charge qui sont connus pour être efficaces à l'heure actuelle. Je pense, il l'a dit, notamment aux corticoïdes, aux surfactants, à la lutte contre l'hypothermie, et puis le fait que le bébé naisse au bon endroit. Et pour reprendre un travail que tu avais mené, Jennifer, l'étude européenne avait montré, par exemple, qu'il y avait seulement, enfin un peu moins de 60% des enfants grands prématurés, il y a une dizaine d'années, qui bénéficiaient des quatre prises en charge. Or, on sait qu'elles améliorent le pronostic des enfants. Donc, une des pistes d'amélioration, c'est déjà de mieux diffuser tous les traitements et les prises en charge qui sont considérés comme efficaces. C'est déjà un des éléments importants.
Jennifer Zetlin, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette visite de la maternité de Port-Royal?
Ma réaction tourne autour du rôle des parents dans la prise en charge des enfants. C'est extrêmement important. Qu'ils aient l'impression de participer aux soins depuis le début. Mais aussi, c'est important du point de vue de la recherche. C'est-à-dire, il faut qu'on intègre les points de vue des parents dans nos études, dans nos recherches, dans notre choix des critères de jugement. Parce que ce qui nous intéresse, nous, en tant que chercheurs, c'est peut-être pas ce qui va intéresser les parents qui ont d'autres préoccupations. Et c'est très, très, très important d'être à l'écoute de leurs problèmes, de leurs soucis et de rajouter ça à nos études.
Yann Cornelli.
Oui, globalement, c'est de créer un environnement le plus adéquat pour la prise en charge du prématuré, que ce soit avec les meilleurs traitements qui ont fait leur preuve, mais aussi l'implication des parents avec leur enfant pour que le bébé soit dans les meilleures conditions possibles, un environnement le moins hostile possible, le moins agressif, parce que toute cette suragression qui va s'ajouter aux conditions de la prématurité, elle va faire que renforcer les effets délétères de la prématurité.
Alors, on peut parler maintenant de cette étude à échelle européenne, Europeristat, c'est une étude qui a montré une réelle différence de prise en charge et de suivi d'un pays à l'autre, Jennifer Zetlin.
Oui. C'est une étude de cohorte, ça veut dire qu'on a constitué des cohortes d'enfants nés prématurément, en même temps que l'étude EPIPAGE, pour pouvoir comparer entre les pays. Et on avait trouvé beaucoup de différences en termes déjà de survie, avec les taux de survie de ces enfants grands prématurés qui étaient différents d'un pays à l'autre. Avec en France des taux de survie assez bas à des âges gestationnels très précoces, à 23, 24, 25 semaines par rapport aux autres pays en Europe, ce qui a conduit à des changements en France depuis. C'est des enfants qui sont nés en 2011 et 2012. Mais il y avait beaucoup d'autres différences en termes de pratiques qui n'étaient pas expliquées par l'état médical de l'enfant, l'état clinique. Par exemple, si on prend l'utilisation des taux des césariennes pour faire naître ces enfants, il y a eu de très grosses différences, du simple au double, entre les différentes régions d'Europe. Et même si ces comparaisons ne nous permettent pas de dire qu'une approche est meilleure que l'autre, parce que ce n'est pas ce type d'études qu'il faut faire, ça permet de pointer des questions où les preuves ne sont peut-être pas suffisamment établies ou suffisamment suivies.
Oui, c'est ça, Pierre-Yves Ancel. Le taux de césarienne, par exemple, est très important pour l'Allemagne, alors que nous, on en réalise beaucoup moins souvent.
En tout cas, en France, globalement, je crois qu'il se situe un petit peu en dessous de 20% hein, sur l'ensemble de la population, ce qui est un taux plutôt bas par rapport à d'autres pays. Maintenant, comme je vous l'ai dit, dans le contexte de la prématurité, il y a quand même un enfant sur deux qui naît après une prématurité décidée ou consentie. Donc, avec des pratiques qui sont effectivement très différentes. Ce qui est toujours difficile, c'est de savoir si c'est, comme le disait Jennifer, hein, sur quoi ça repose. Est-ce que c'est l'avis d'un expert? Est-ce que c'est quelque chose qui est consensuel? Est-ce que c'est quelque chose qui a été évalué dans le cadre du cadre de référence qui est laissé contrôler randomisé? Mais ces études-là sont souvent difficiles à mener et elles demandent des moyens. Et je pense qu'un des éléments que Jennifer soulevait, c'est que, en fait, théoriquement, toute nouvelle prise en charge devrait être évaluée correctement dans ces populations d'enfants dits vulnérables. Mais c'est justement parce qu'ils sont vulnérables que quelquefois, on peut reculer à faire ces évaluations-là, alors qu'elles sont absolument nécessaires et que c'est un enjeu aussi, je dirais, même éthique vis-à-vis de cette population.
Est-ce que justement, pour prolonger ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut dire que la recherche sur ces populations des prématurés est encore insuffisante, qu'elle est encore trop lacunaire ?
En tout cas, je pense qu'il y a un élément sur lequel on a déjà un petit peu pointé du doigt, c'est la nécessité d'avoir un système d'information en périnatalité en France qui soit digne de ce nom, c'est-à-dire être capable d'avoir des informations précises pour la mère et l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement, la période néonatale. C'est le minimum pour pouvoir un peu piloter, savoir combien d'enfants prématurés, combien vont décéder. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est d'engager des études qui permettent de savoir ce que deviennent ces enfants à court, moyen et long terme, parce que c'est en sachant exactement quel type de troubles ils ont, qu'on est capable d'adapter la prise en charge. Donc il faut qu'on puisse suivre aussi l'évolution de ce pronostic-là.
Yann Cornillet.
Oui, alors, sachant qu'en plus, la population des familles qui sont victimes de, entre guillemets, de prématurité, c'est quand même très compliqué à gérer. Donc c'est là aussi où on a un manque de données, c'est que et c'est très compliqué à récolter les données en impliquant cette population-là.
Alors, à terme, les chercheurs espèrent améliorer de 50% le taux de survie sans séquelles sévères des extrêmes prématurés. Quelles sont les pistes à l'étude pour augmenter ces chances de survie? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, nous parlons de naissance prématurée avec Jennifer Zetlin et Pierre-Yves Ancel. Une émission en partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillier. On a vu que les troubles neurodéveloppementaux, les troubles de comportementaux sont d'autant plus fréquents que la prématurité est sévère. 25% des enfants nés extrêmes prématurés présentent des difficultés de développement. Pierre-Yves Ancel, est-ce qu'il existe des traitements pharmacologiques qui ont fait leur preuve pour réduire justement ces atteintes du système nerveux central?
En tout cas, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on sait que les corticoïdes en période anténatale permettent de réduire des hémorragies intraventriculaires, donc cérébrales, qui vont survenir très tôt dans le premier mois de vie. On a vu aussi que la prise en charge globale, je pense, naissance dans les maternités équipées de services de réanimation, la corticothérapie, la prise en charge, comme on l'a évoqué tout à l'heure, a probablement fait diminuer aussi ce qu'on appelle des lésions très spécifiques de la substance blanche cérébrale, qu'on appelle des leucomalacies cavitaires, et donc au final, moins de paralysie cérébrale, de handicap moteur sévère. Mais comme l'a très bien dit Jennifer, on a aussi plus d'enfants qui survivent, moins avec des troubles moteurs sévères, mais il reste quand même tout l'aspect des troubles cognitifs qui sont quand même fréquents. Ils sont pas tous forcément très sévères, mais il pose des problèmes aux familles, les enfants vont rencontrer des difficultés à l'école, donc il faut pouvoir les accompagner. Voilà. Et donc là, il y a encore des progrès à faire.
Comment justement, quel progrès peut-on envisager pour améliorer, pour lutter contre ces problématiques de troubles cognitifs, Jennifer Zetlin?
Moi, j'allais rajouter à ça, comme je disais, qu'il faut faire participer les parents à nos études. Et justement, leurs priorités sont souvent autour de ces problèmes modérés et mineurs qui, pour les médecins ou les chercheurs, on a tendance à dire que c'est pas le problème le plus grave, mais pour les parents, ça compte vraiment. C'est effectivement une question importante, ce qu'on propose à ces enfants en termes de suivi. Et quel type d'intervention, quel type de prise en charge est nécessaire en fonction de leur risque. Et c'est une question vraiment importante pour la recherche future, puisqu'on a assez peu de données sur lesquelles baser les politiques. Et nous, vous avez parlé de l'Europe. Quand on regarde les politiques en Europe vis-à-vis du suivi de ces enfants, on voit que les politiques sont très différentes. Il y en a certains qui suivent ces enfants jusqu'à 5 ans. Il y a d'autres pays où c'est jusqu'à 2 ans. Il y a certains pays où c'est juste les enfants moins de 28 semaines, qui naissent avant 28 semaines. Il y a d'autres pays où c'est tous les enfants jusqu'à moins de 32 semaines. Et donc, quand on voit une disparité comme ça, ça suggère qu'on n'a pas des informations qu'il nous faut pour bien décider.
Pierre-Yves Ancel, vous souhaitiez réagir?
Non, je renforce complètement ce que disait Jennifer sur la nécessité. D'abord, il faut que ces familles rentrent dans un circuit de suivi, parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées, elles sont demandeuses d'informations et d'aide. Et donc, il faut, il y a en France un système de réseau de suivi des enfants vulnérables qu'il faut soutenir, parce que je pense qu'ils sont là pour essayer de coordonner les soins après la sortie de l'hospitalisation, et les familles en ont besoin. Mais par contre, on a besoin d'un vrai travail de recherche pour identifier les interventions qui seraient susceptibles de bénéficier le plus aux enfants, notamment les plus à risque. On a besoin de deux choses. On a besoin, un, d'identifier les enfants, parmi ces enfants prématurés, ceux qui sont le plus à risque de faire des troubles du développement. Et c'est pas toujours très facile. Et peut-être laisser tranquille tous ceux qui vont bien, pour pas non plus créer un environnement qui soit trop anxiogène pour les parents, parce qu'il y a des enfants, comme tu le disais, qui vont se développer normalement et qui ont peut-être besoin qu'on les laisse un peu tranquilles aussi.
Yann Cornillier, je remonte un peu en amont justement sur la recherche de traitement, et notamment la recherche de traitement anténatal. Quelles sont les stratégies en cours? Quels sont les axes de recherche?
Alors, il y a quelques stratégies sur des molécules. Notamment, il y a des traitements à base de sulfate de magnésium qui ont montré un petit peu d'effet, mais ça reste quand même très très limité. Il y a aussi l'administration d'hormones comme l'ocytocine qui ont pu montrer des effets sur les lésions cérébrales des bébés prématurés. Une des pistes peut-être pour le futur, quand même hypothétique, hein, mais c'est l'utilisation de cellules souches qu'on pourrait utiliser chez les bébés et qui ont montré en termes de concept que cela pouvait avoir des effets bénéfiques, parce que ça pourrait en injectant des cellules souches, ces cellules souches pourraient sécréter des facteurs de croissance pour rénover les neurones du bébé prématuré.
Des cellules souches humaines qui sont extraites de cordons ombilicaux pour justement traiter les lésions cérébrales de bébés prématurés. Ça, c'est le projet européen PREMSTEM.
Exactement.
Pierre-Yves Ancel, est-ce qu'il serait possible également de prédire les grossesses à risque?
Alors ça, c'est l'autre élément qui est compliqué, c'est que, par exemple, on sait que des femmes qui, au cours de la grossesse, font ce qu'on appelle un travail prématuré en membrane intacte. Donc elles arrivent, elles ont des contractions. Donc on a l'impression que l'accouchement va se produire derrière. Il y en a une sur deux qui va finalement accoucher à terme. Donc vous voyez que la prédiction est compliquée. Et donc il y a un projet qui a été mis en place et financé récemment qui s'appelle le projet PREDIMAP, qui est coordonné par le professeur François Goffinet à Port-Royal, qui justement vise à identifier des facteurs à la fois cliniques et des biomarqueurs pour essayer de mieux prédire la survenue de l'accouchement prématuré. Et c'est important pour deux raisons. La première, c'est de cibler la population la plus à risque et laisser tranquille les femmes qui ne vont pas accoucher prématurément.
Dans quelques secondes, on vous parle de toute autre chose avec la chronique Avec Science, mais merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle que le nouveau numéro du MAC de l'INSERM, le numéro 60, Prématurité, l'urgence d'agir, est disponible en ligne. Merci à vous trois. Il est temps de rejoindre Alexandra Delbo et sa chronique Avec Science. Aujourd'hui, direction Pluton.
Comment le cœur de Pluton s'est-il formé? On ne parle pas de son noyau, de ce qu'il y a dans ses entrailles, mais d'une forme particulière à sa surface. Ce cœur visible sur la face externe mesure près de 2000 km de large et il possède deux lobes, chacun d'entre eux ayant une composition particulière. Dans le ventricule gauche, un cratère d'impact rempli d'un océan d'azote solide qui bouge en permanence. On l'appelle la plaine Spoutnik, Spoutnik Planitia, et à droite, une surface gelée, elle aussi, mais recouverte de glace de méthane. Ce qui agite les scientifiques depuis sa découverte en 2015, c'est la position de ce cœur. François Forget est planétologue et directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de Sorbonne Université.
Ce qui était étonnant, c'est que cet immense impact qu'on appelle plus Spoutnik Planitia, qui fait des milliers de mètres de profondeur et 2000 km de large, se retrouve exactement à l'équateur. Et non seulement ça, il se trouve exactement orienté côté extérieur par rapport à la rotation entre Pluton et sa lune Charon. Parce que Pluton, elle n'est pas une simple planète toute seule. Elle a une lune très grosse qui fait la moitié de sa taille et les deux mondes, Charon et Pluton, sont en rotation autour d'un centre de gravité commun qui est à l'extérieur des deux planètes. Donc on les voit vraiment comme un balai tourner l'une autour de l'autre. Et il se trouve que le bassin de Spoutnik Planitia, non seulement est à l'équateur, mais en plus il est à l'opposé de Charon. C'est-à-dire que tout se comporte comme si vraiment ce bassin, c'est un excès de masse, c'est une surcharge de masse. Il est à l'équateur et en plus, il s'est trouvé expulsé à l'opposé de la rotation de l'ensemble Pluton-Charon. Et ça, c'est étonnant parce que lorsqu'on fait un impact, on s'attend à retirer de la matière, donc à alléger localement la surface. Or là, on a l'impression de l'inverse, que quelque chose, depuis qu'il y a eu l'impact, c'est plus lourd qu'avant, alors qu'il y a un trou, hein, donc ça devrait être vide et plus léger.
L'hypothèse avancée jusqu'à présent pour expliquer cet équilibre de masse, c'est que l'eau provenant d'un océan liquide sous la surface glacée de Pluton serait remontée à la suite d'un impact sur une soixantaine de mètres vers le haut, dans le manteau de glace, mais sans atteindre la surface. Et parce que l'eau liquide est beaucoup plus dense que la glace, ce déplacement aurait créé un excès de masse et remis les poids à la bonne place. Voilà une première hypothèse, mais si on connaît bien le devenir des impacts par chez nous, sur Terre ou sur la Lune, les conditions environnementales du bout du système solaire sont bien différentes et donc il est nécessaire de proposer d'autres scénarios potentiels. C'est ce qu'a fait cette nouvelle étude parue dans Nature grâce aux données récupérées par la sonde New Horizon de la NASA. En combinant ces images avec des modèles, ces auteurs mettent en évidence qu'il n'y a pas besoin de faire intervenir de l'eau souterraine dans cette histoire, mais plutôt qu'un corps étranger de 700 km de diamètre aurait percuté la planète et laissé un petit bout sous la surface.
Tout simplement, l'impact qui a créé ce grand bassin qu'on appelle Spoutnik Planitia, et ben cet impacteur, cette espèce d'objet, on va dire une astéroïde, en fait a laissé une partie de son matériel, du caillou, hein, donc quelque chose de beaucoup plus dense que de l'eau encore, que de la glace, un petit peu sous la surface. Et c'est ça qui a créé le balourd et qui a ramené toute la masse du bassin vers l'équateur. C'est tout simplement parce que sous le bassin, il reste un gros morceau du cœur rocheux, très dense, qui est encore sous la surface. Et alors, là où ce travail est séduisant, c'est que non seulement il explique la position du bassin de Spoutnik Planitia à l'équateur, mais en plus, il explique la forme. Ils ont fait des beaux modèles et qui montrent que, effectivement, quand on a un impact comme ça sur des mondes comme cela avec cet épais manteau de glace d'eau, eh bien, ça forme non pas un grand bassin circulaire, comme on voit sur la Lune, etc., mais ça forme cette étrange forme en gouttes, et c'est exactement ce qu'on observe sur Pluton.
Un scénario rendu possible par la collision dans un environnement très froid et à une relative faible vitesse, 6 km par seconde. Cela explique à la fois la position du cœur et la forme en goutte du lobe gauche. Mais ce que ces résultats signifient aussi, c'est qu'on n'a plus besoin d'invoquer un océan liquide pour justifier de l'existence de ce bassin, et donc que Pluton ne porterait pas d'océan caché. Reste que tout n'est pas encore élucidé sur cette planète, il reste à comprendre comment ce bassin contrôle l'atmosphère et sculpte le paysage de Pluton. Et pour cela, il y a encore d'immenses quantités de données de New Horizon à explorer. Et cette sonde continue son chemin. Elle a passé Pluton depuis longtemps et se trouve à présent dans la ceinture de Kuiper.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Bruno Sansini, Céline Lausanne, Noémie Eliazor, Garance Prima Agnolo. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.